Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Mais bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On commence par le sujet du jour. En tout cas, on est jeudi puis c'est le sujet du jour. Le financement. Ouais, c'est ça, le financement des partis politiques. Il y a eu de nombreux articles sur le fait que à la coalition Avenir Québec, on a sollicité finalement des 100 $ en disant ben c'est peut-être une belle occasion dans un cocktail de parler à un ministre. Et là, mon Dieu, je comprends pas, mais le premier ministre a dit ça se fera plus, puis même on va abandonner le financement populaire. Qu'en as-tu pensé, toi, sur le plan constitutionnel?
Ça, c'est le moment où on enregistre, hein, on sait pas les rebondissements de demain.
Mais oui.
Mais oui, c'est clair qu'il y a une distinction entre renoncer au financement populaire et l'interdire. Que l'organisation qui s'appelle Coalition Avenir Québec, qui est un parti, qui est pas l'État, à la limite, la Charte canadienne s'y applique peut-être pas à une association qui est un parti politique, si eux, ils décident de se passer du financement populaire ou financement privé, on sait plus comment le nommer, ben ça leur regarde. Ils sont pas obligés d'en faire. Mais le volet de l'annonce d'aujourd'hui qui voudrait interdire, donc modifier la loi, ben comme c'est souvent le cas, la Constitution va venir, disons, compliquer les choses.
Aha.
Pourquoi? Ben parce que la liberté d'expression politique, c'est fondamental. Et si je veux exprimer des idées politiques dans la vie, ben il faut que je dépense de l'argent pour les promouvoir.
Hein, eh oui.
À moins de... et donc, c'est fondamental.
Ben, chez nous, c'est reconnu dans la jurisprudence, c'est-à-dire ici, dans notre dominion. C'est reconnu, mais si on va aux États-Unis, c'est encore plus reconnu. T'sais, même la publicité électorale est considérée comme de la liberté, faisant partie de la liberté d'expression. C'est presque sans limite, hein?
Aux États-Unis, la liberté d'expression en cette matière, elle est sacralisée. Puis c'est vrai qu'au Canada, il y a des arrêts comme la contestation de Robert Libman dans les années 90 ou celle de Stephen Harper. Avant qu'il devienne premier ministre, il avait contesté la loi de Jean Chrétien sur la limitation du financement des partis politiques. À la fin de sa carrière, Jean Chrétien avait adopté une loi pour le fédéral qui ressemblait un peu à celle de René Lévesque. Et donc, depuis le début, là, depuis la grande loi sur le financement des partis politiques du Parti québécois à la fin des années 70, on le sait qu'à chaque fois qu'on encadre, on joue, on limite la liberté d'expression. Puis bon, ben les droits, c'est pas absolu. Il y a moyen de les encadrer, de les limiter au nom d'un objectif d'intérêt public. Et jusqu'à présent, la jurisprudence canadienne a été plutôt ouverte à la chose. Dans l'affaire Harper, dans l'affaire Edelman et dans d'autres, on nous dit, écoutez, vous poursuivez un objectif valable, limiter l'influence de l'argent en politique. À travers ça, vous développez au fond, puis là, on voit que... Il y a du nationalisme canadien dans la jurisprudence de la Cour suprême. Elle parle d'un modèle, d'un système électoral égalitaire, plus égalitaire qu'aux États-Unis. Comme si on veut bomber le torse puis dire, ben nous, on fait pas comme les Américains. Donc, la jurisprudence a été flexible jusqu'à présent. Sur le 100 $ parce qu'au Québec, on a baissé de 3 000 à 1 000 $ et ensuite, on l'a réduit à nouveau à 100 $
Ouais.
Et ni le 1 000 $ de Jean-Marc Fournier, ni le 100 $ de Bernard Drinville, à l'époque ministre de Pauline Marois, ni un ni l'autre s'est rendu dans une contestation jusqu'en Cour suprême. Il y a eu un dossier sur le 100 $ en première instance, et ça n'a pas été porté en appel, et pour le moment, le 100 $ tient. Mm-hmm. J'espère qu'il va tenir. J'y crois, mais on faut être conscient.
Tu dis qu'il tient. Qu'est-ce qui pourrait être il pourrait être contesté. On pourrait dire 100 $, c'est pas assez pour respecter la liberté d'expression. Ben,
l'atteinte à la liberté d'expression, elle est déjà reconnue là. À 3000, on disait déjà qu'il y avait une atteinte. Mm-hmm. Mais à chaque fois, on dit l'atteinte poursuit un objectif raisonnable par des moyens proportionnés. Et donc, ça passe le test, c'est justifié. Puis ça, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Et là, la question qui se pose, c'est que si, comme le suggère M. Legault, on interdit, est-ce qu'on va être encore capable de le justifier devant le tribunal, de dire, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre limiter puis interdire?
Mm-hmm.
Et moi, je pense que limiter, le Québec a toujours réussi à défendre ses lois qui limitaient.
Mm-hmm.
Mais si on fait le pas qui consiste à interdire, là, il va falloir se présenter avec un bien meilleur argumentaire.
C'est ce qu'a évoqué le premier ministre aujourd'hui, que ce soit interdit.
Mais par exemple, quand on a réduit de 3 000 à 1 000 $, puis de 1 000 $ à 100 $, il a fallu raffiner un peu notre façon de défendre l'objectif de la loi. Au départ, l'objectif, c'est limiter l'influence de l'argent en politique. Peut-être qu'à 1 000 $, on a assez limité l'influence de l'argent politique. Pourquoi aller à 100 $?
Ouais.
Alors là, il a fallu que l'État dise, oui, mais là, on a un nouvel objectif, on a un nouveau problème à régler, c'est celui des prête-noms.
Ah oui.
Puis à 100 $, ça vaut pas la peine de faire des prête-noms. Mais à 3 000, oui, parce que si j'ai 10 prête-noms, ça vaut le coup, j'ai une somme. Donc, on comprend qu'à chaque fois que l'État donne un tour de vis sur la liberté d'expression, au nom d'un objectif valable, il faut qu'il soit capable de définir son objectif devant le tribunal. Et donc là, en disant on interdit, là on sait c'est quoi le moyen. Le moyen, c'est plus de financement populaire. Mais là, il faut être capable d'avoir un objectif à la hauteur du moyen choisi. Exemple, si l'objectif, ça reste limiter l'influence de l'argent en politique, ben on va dire, ben vous voulez limiter, vous n'avez pas besoin d'interdire. Un petit montant, ça limite l'influence sans l'exclure complètement.
Ben oui.
Alors, comment verbaliser un objectif à la hauteur de cela? Et à la limite, si c'est juste parce que on a de la misère à développer une pratique exemplaire du financement, mais il y a des solutions de rechange.
Moi, je dirais, on a de la misère à gérer les perceptions chez les caquistes. Ouais.
Et là, là-dessus, on est dans une semaine un peu bizarre où tout le monde a respecté la loi. Oui, il y a eu des maladresses, une médiocrité éthique, peut-être une façon de
formuler,
d'écrire
hein,
des courriels, de présenter les choses qui est maladroite. Mais il y a pas de, y a rien d'illégal et donc à la limite il y a peut-être moyen de développer de meilleures pratiques. Mais avant de limiter une liberté fondamentale, il faut avoir un objectif à la hauteur de cela. Je dis pas qu'ils le trouveront pas. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'en matière de charte, il faut reconnaître à l'État une capacité d'arriver avec des objectifs d'intérêt public. C'est juste que là, je le vois pas aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Je suis pas capable de définir un objectif à la hauteur de ce qu'on s'apprête à interdire.
Deuxième sujet, la culture. Tu as participé à quand même une réflexion importante avec d'autres signataires. Je pense à Clément Duhaime qui a été directeur, c'est-à-dire délégué général
délégué
à
Québec.
Paris, entre autres.
Oui. Et premier fonctionnaire de l'OIF pendant des années.
Et de l'OIF, tu as raison. Et donc, vous avez réfléchi à la découvrabilité des contenus culturels. Donc, c'est le défi, finalement, de trouver les œuvres québécoises dans les nouvelles plateformes numériques. Alors, on sait que elles n'ont pas beaucoup de place, nos œuvres là sur Netflix, sur Spotify, sur toutes ces plateformes que dont se sert beaucoup notre jeunesse.
Alors, Antoine, les chiffres de consommation là, surtout dans la musique, mais aussi le cinéma, la télévision, sont dramatiques. Et la tendance s'accélère. Il y a en plus une dynamique générationnelle, il y a la technologie qui renforce tout cela, et on peut pas consommer ce qu'on nous propose pas.
Ouais.
C'est sûr que quand on veut très fort, on a des collections, je pense à des collections comme Éléphant, là, c'est un trésor, on peut trouver des choses extraordinaires. Mais souvent, l'être humain va choisir parmi ce qu'on lui propose. Ouais. Et donc, l'action qui consiste à recommander des habitudes, des suggestions pour écouter ou visionner, c'est très important dans le monde numérique d'aujourd'hui. Les bibliothèques, les catalogues sont immenses, mais l'algorithme qui nous permet de découvrir devient un enjeu central.
C'est
ça. Et la place, un, de la culture d'ici, mais plus généralement, puis ça c'est le choix que le rapport a fait, de la culture qui se pense, qui se crée de façon originale dans la langue française, donc la culture aussi d'ailleurs, mais qui est conçue en langue originale française. Ça, c'est important pour la diversité des expressions culturelles, puis notre capacité de notre culture à trouver une place là ici et dans le monde.
C'est un mandat qui avait été accordé par le gouvernement.
Oui, c'est le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui nous a mandaté pour cette réflexion, avec l'ancienne ministre Louise Beaudoin, le diplomate Clément Duhaime, ma collègue Véronique Gevremont, spécialisée en droit international dans le domaine culturel, dans le domaine de l'UNESCO, et notre accessoirement constitutionnaliste de l'Université Laval,
évidemment
toutes les questions de partage des compétences.
Un vrai sage, hein?
Oui, c'est ça. Donc, pour les questions fédérales, provinciales, puisque le Québec, en matière de souveraineté culturelle,
ben,
il aspire depuis longtemps à avoir plus d'autonomie sur le plan culturel, mais il n'a pas la complète maîtrise de ces questions-là. Notre compétence doit coexister avec celle d'Ottawa. Donc, grosso modo, le rapport...
Mais attends, j'étais vraiment impressionné de voir le mot de Robert Bourassa revenir, le terme souveraineté culturelle.
Bien sûr, c'est l'expression, elle est encore plus pertinente qu'à l'époque de Robert Bourassa.
Ah oui.
Parce que ce qui était avant un combat juste pour le Québec dans le Canada, c'est devenu le combat au fond de toutes les petites nations, de toutes les nations fragiles et même de grandes nations dont la culture se fragilise aussi face à ce rouleau compresseur là, des plateformes numériques. Et donc, le combat pour la souveraineté culturelle, ben c'est aussi le combat de plein de pays européens, puis c'est le combat du Canada aussi. Mais ça restera aussi toujours une question existentielle pour le Québec dans notre appartenance au fédéralisme canadien. Ben, on appartient à une fédération parce que sur les questions de langue et de culture, nous sommes le principal, le meilleur juge de l'avenir et de l'état de notre langue et de notre culture. Et donc, on a cherché à situer le rapport dans une logique transpartisane, puis on a fait l'historique du dossier de la souveraineté culturelle au fond du Québec dans le Canada, parce qu'à terme, soyons réalistes, sur des questions de plateforme, s'attaquer à des géants comme Netflix, Amazon, etc., on fait pas ça n'importe comment.
Ben non.
Et le Québec, à l'échelle de l'humanité, peut faire quelque chose et doit faire quelque chose. On a des compétences, on doit montrer l'exemple. Mais si on agit dans le désordre, de manière dispersée, tout seul, ça aura probablement pas un très, très grand succès.
Hey, mais donc, il nous reste pas beaucoup de temps. Je voulais souligner une affaire qui m'a surpris, parce que tu critiques souvent la multiplication des droits fondamentaux. Puis, ce rapport propose justement une espèce de nouveau droit à la découvrabilité de la culture québécoise.
Oui, on propose même d'amender la Charte québécoise.
Ben oui.
Puis il y a plusieurs raisons qui vont dans cette direction-là. D'abord parce que c'est un fil conducteur. Si on veut agir sur la scène internationale, c'est parce qu'il y a une logique de droit culturel à l'international qui s'inscrit dans cette logique-là. Puis après ça, ben sur le plan du droit interne, ben Ottawa, lui, il régule des signaux, des infrastructures, des antennes, des infrastructures de télécommunications. Au fond, depuis toujours, Ottawa a une compétence très solide sur les tuyaux de la culture. Mais nous, on a une compétence sur le contenu, les bibliothèques, les librairies, les clubs vidéo, mais aussi une compétence sur tout le droit commun. Puis la définition des droits fondamentaux, c'est une façon d'asseoir la compétence du Québec,
okay,
qui est aussi adaptée à notre époque, parce que les plateforme, là, on va pas légiférer sur le Minitel, Antoine, là.
Non.
C'est-à-dire, on va pas légiférer sur des moments technologiques. Il nous faut une loi qui va durer dans le temps. Donc, poser un objectif, une garantie, un droit fondamental, dire on ne peut pas déraisonnablement bloquer l'accès à une diversité de contenus culturels. Ouais. C'est donner un droit, oui, c'est d'y aller avec une logique de droits fondamentaux, mais une logique qui est souple, adaptable, qui s'évalue au cas par cas. Donc, oui, on tombe dans le piège de multiplier les droits fondamentaux, mais c'est la logique de notre époque, d'une évolution technologique qui fait en sorte que si c'est un droit, une garantie fixée comme un objectif, ça laisse à l'État et aux entreprises ensuite une certaine marge de manœuvre sur le choix des moyens pour atteindre cet objectif-là. Fait que les droits fondamentaux ont cet avantage-là. Puis ça permet au Québec, par rapport à sa charte, qui a toujours été dans le texte du moins différente de celle de la charte canadienne, malheureusement trop souvent interprétée de la même manière que la charte canadienne, mais ça permet d'accentuer que cette charte-là, c'est notre modèle à nous, et nous, on tient à y mettre des droits culturels, tout comme on y a mis le droit de vivre en français à l'article 3.1, à la suite de la nouvelle charte de la langue française.
Ben, merci beaucoup, cher Patrick.
Et c'est moi qui te remercie.
Tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, puis je pourrais ajouter aussi sage.
Oui, en effet.
Sur plusieurs sujets.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.